L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici dans
le temps. Des valses, une heure de temps.
Ah oui,
bon,
une heure et quart.
Ouais.
Et bonjour.
Bonjour. Vous êtes dans l'écho du parquet, l'émission...
Qui met le feu au plancher.
Voilà, l'écho du parquet, ça peut s'écouter sur fréquence 7 du côté d'Aubenas, 92 FM, les 2e et 4e lundis du mois à 19h en alternance avec Tu danses.
Ou sur Radio Méga le lundi à 11h, en rediffusion le dimanche à 16h.
Et évidemment, vous pouvez toujours nous écouter sur le podcast de notre audioblog sur Arte. Alors cette semaine, dans l'écho du parquet, on va faire un petit recentrage sur l'Ardèche, justement, autour de l'histoire du collectage et de la transmission des musiques et des danses traditionnelles locales.
Oui, mais pour commencer, on n'avait pas tout à fait terminé notre programme il y a 2 semaines et qui était consacré, on vous le rappelle, au son continu, au festival Le Son Continu. Donc on va revenir sur des groupes qu'on a bien aimés cet été au festival du Son Continu.
Et donc on va commencer par un petit groupe dont la formation a pas mal évolué au cours des 10 années d'existence, puisqu'ils étaient nombreux au début, ils le sont moins aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est un petit groupe. C'est actuellement un trio, caronne, accordéon diatonique, harpe celtique. Il s'agit du groupe Nostrade, qui est un groupe breton dont on a beaucoup apprécié la douceur des ambiances dans la cour du château d'Ars cet été, par une chaude après-midi, où on cherchait de l'ombre et de la douceur. Et la douceur, c'est évidemment ce que Nostrade propose très bien, avec une couleur particulière à leur musique qui est donnée par la harpe. Et tout ça était, on va dire, charmant, agréable, apaisant, aérien, plein de bien-être, quoi, voilà, et breton. Et donc, on va vous proposer dans l'écho du parquet une maraîchine de Nostrade qui s'appelle Catharsis, car même dans le nom des morceaux, Nostrade nous fait du bien.
Thank you.
celui-là n'était pas si calme voilà. que ça, en fait. Pardon.
On va découvrir un groupe qui, lui, est assez calme quand même. Mais bon, vous allez voir, qui est assez discret, qui existe pourtant depuis quelques années, qui s'appelle Bourrasque. C'est un mélange de Massif Central et du Sud-Ouest. Le Quercy, pour être précis, c'est un duo qui croise les cordes du violon et du banjo, les voix et le fifre aussi. Donc au banjo, fifre et voix, Elisa Trébouville, que l'on retrouve aussi dans Sourdure, un quatuor médiéval qui dissonne sec, et Marthe Touret au violon, voix et pied, qui fait aussi partie d'un trio de violonneuses occitanes, Maraya. Alors Bourrasque, c'est assez hypnotique, fait de boucles lancinantes avec de petites brises qui se transforment vite en ouragan, parfois psychédélique, presque prog, le rock en moins... Quoique, parfois. Hein. Preuve en est le second CD de ce double disque, constitué de deux morceaux de 15 minutes chacun. On vous laisse vous faire votre avis. Avec un morceau un peu plus court, format radio oblige, mais c'était pas l'envie qui manquait.
L'amour est passé près de vous, un soir dans la rue, n'importe où. Vous n'avez pas su le voir en chemin. L'amour est un jeu si malin. Prenez bien garde une autre fois. Ne soyez pas si maladroit. Sachez le comprendre et le garder pour vous. Si vous voyez passer l'amour. Thank you.
êtes toujours dans l'écho du parquet et c'était une valse du groupe Bourrasque intitulée « Valse de l'amour ». C'est un morceau extrait du double album « Soit la nuit, soit le jour » qui est sorti en avril dernier en coproduction sur les labels La Cru, Pagans et Permafrost. Alors c'est un premier vrai album puisque le premier qui était sorti en 2018 était autoproduit et les morceaux se retrouvent en fait largement dans celui-ci. Album qui a été enregistré, si l'on en croit les photos Facebook, non pas dans un studio high-tech, mais dans ce qui ressemble plutôt au grenier à foin d'une ancienne ferme. Authenticité garantie.
Ça va très bien avec la musique.
Sur la pochette, une très belle illustration stylisée d'une coupe géologique d'une vallée, comme une évocation des strates diverses que parcourt leur musique. Bref, tout est réussi.
C'est trop beau ce que tu dis.
Une partie de ce double album n'est pas Bourrasque, mais Borsec, c'est-à-dire Bourrasque plus Jacques Pouèche à la cabrette, qui vient renforcer les ambiances auvergnates.
L'écho du parquet.
Et voici dans l'écho du parquet le moment culturel de l'émission, qui est une émission à valeur culturelle ajoutée, puisque nous allons vous emmener un petit peu en arrière pour ceux qui n'y étaient pas à Privas, car beaucoup de gens n'étaient pas à Privas ce jour-là. Le mardi 23 mai se tenait une journée de formation des bibliothécaires sur les musiques traditionnelles, qui était organisée notamment par le département culture du conseil départemental 07. Et au cours de cette journée, il y a eu plusieurs interventions sur des choses différentes et on a voulu vous proposer des extraits d'une intervention de Patrick Mazelier, qui est violoniste ardéchois et ethnomusicologue, et qui avait fait une des interventions qui était consacrée à l'histoire des musiques et des chansons, des danses traditionnelles en Ardèche, ainsi qu'à leur collectage, comment cette tradition s'est conservée. Donc on a enregistré quelques extraits, enfin on a enregistré sa conférence, on vous propose quelques extraits avec à la fin de tout ça un petit moment de musique traditionnelle ardéchoise.
Je vais utiliser le terme musique traditionnelle. Ça suppose tradition orale, ça suppose société rurale. Or, il faut être clair, la tradition orale, elle est terminée, la société rurale, elle est terminée. D'accord ? Donc, quand on dit musique traditionnelle, en fait, c'est une espèce de jeu comme ça, mais on sait très bien qu'à la musique traditionnelle, aujourd'hui, nous la jouons comme on joue de la musique médiévale, de la musique baroque, etc. La société traditionnelle, elle est morte. La société rurale, donc, elle disparaît progressivement à partir de la guerre de 14-18. Hein. Et dans certaines régions, par exemple la Drôme, Sud, elle disparaît même avant. On sait que les formes traditionnelles, comme le rigodon, par exemple, vont disparaître très rapidement à partir du milieu du 19e siècle. Donc, ce qui veut dire que les derniers témoins vraiment intéressants, ce sont des gens qui sont nés quelque part entre 1880 et 1914. Ce qui limite, en gros, les collectes aujourd'hui, normalement, on ne peut plus en faire. Hein. Aux années 2000, on n'a plus de vrais témoins de la société rurale. Hein. Nous qui avons collecté, je pense, Christian, Sylvette, qui sont là, qui ont collecté des personnes dans les années 70, qui étaient âgées de 80 ans, 90 ans, on a mesuré à quel point ces gens étaient de notre monde quand ils se mettaient à chanter, quand ils se mettaient à parler l'occitan. Alors évidemment, il faut parler assez rapidement des sources, puisque l'histoire des musiques traditionnelles en Ardèche, c'est évidemment l'histoire de la collecte, mais aussi l'histoire des publications des folkloristes. C'est tout ça, c'est l'histoire de l'appropriation de la mémoire orale. Puisque je vous rappelle que, par exemple, ma grand-mère était née en 1900, hein, et je me suis aperçu, lorsque j'avais 10 ans, qu'une grande partie de sa culture était orale. Quand que j'étais à l'école, et lorsqu'elle écrivait, elle écrivait moins bien que moi. Et là, j'ai compris que toutes ces chansons qu'elle m'apprenait, eh ben, elle ne les avait pas apprises dans les livres. Elles venaient d'ailleurs. Et là, ça commençait à m'interroger. Voilà, pour dire que l'importance de la culture orale, non écrite, chez les personnes nées au début du siècle, hein, c'est vraiment énorme. C'est plus de 50% de leur culture. Alors, ça ne veut pas dire, après, ils ne s'intéressent pas à l'écrit. Au contraire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas confiance dans l'écrit. et qui, hein, parce que évidemment les paysans ils ont confiance dans les grilles, surtout quand c'est un contrat de fermage et, ou un acte d'achat d'une terre par exemple, hein. Mais par contre la part de la culture orale est extrêmement importante, et donc là on a la clé d'un imaginaire, hein, d'un imaginaire qui peut être créatif, pas chez tous les individus, mais voilà. Donc nous avons dans ces sources, nous avons ce qu'on appelle les pré-ethnologues. Alors, ils sont peu connus, mais ils sont intéressants. Par exemple, Albin Mazon, Abraham Charmasson, qui décrivent des situations extrêmement intéressantes de jeux, de mise en scène traditionnelle. Par exemple, les fêtes. On a même le répertoire. On sait, par exemple, que la coutume des renveillés à Saint-Romez en 1830 existe. C'est-à-dire que le soir d'été, les garous, comme on disait, c'est-à-dire les jeunes en âge de se marier, ils sortent et ils vont chanter sous les fenêtres des filles « Réveillez-vous, belle endormie », etc., etc. Donc on a on sait, par exemple, que lors des élections, tout le monde fait la farandole, hein. Tout le monde sort dans la rue, et alors les rouges gagnent, parce qu'en Ardèche, vous savez que les rouges, c'est important, surtout au sud. Hein. Quand les rouges gagnent, tout le monde fait la farandole avec des paroles qui, je préfère pas les répéter. Et puis, lorsque c'est les blancs, même, c'est la droite, c'est les anciens royalistes, mais ils ont été assimilés. Hein. Lorsque les blancs gagnent, ils font la même farandole, c'est la même musique, mais c'est pas les mêmes paroles. Alors après, évidemment, nous avons notre Bartok national, chez Vincent Dindy, hein, qui lui, c'est une personnalité vraiment hors du commun, très grand compositeur, pédagogue, fondateur de la Schola Cantorum, je ne vais pas dans les détails, vous trouverez sa biographie partout. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il a collecté, très jeune, puisqu'il avait commencé à collecter avec Kierso, vous avez chansons populaires du Vivarais et du Vercors, qui date aussi de 1897, je parle au 18, par là. Mais c'est surtout ses chansons populaires du Vivarais. Il a deux opus, le 52 et le 101. La première édition date de 1900. Et ce qu'il faut noter absolument, c'est qu'il fait figurer ses chansons populaires du Vivarais dans son catalogue d'œuvres, au même titre que sa symphonie sévenole. Hein, vous avez toutes ses œuvres, il y en a qui sont absolument remarquables. Et à côté, vous avez les chansons populaires du Vivarais. Vous voyez l'estime dans laquelle il portait ses mélodies, hein. Et c'était vraiment un très grand musicien. Alors aujourd'hui, ces arrangements peuvent paraître un peu, je dirais, conformistes, voire normalisateurs, si on compare à l'époque, par exemple, ce qu'écrivait Béla Bartók sur la musique roumaine ou hongroise. Mais bon, il faut bien comprendre qu'il a fait ça aussi d'une manière pédagogique, et il voulait surtout respecter les modes. Il était très proche des modes du grégorien, des modes religieux, hein. Et donc il voulait absolument pas déformer ses couleurs, voilà. Par contre, il a tout de suite compris, hein. Par exemple, le premier morceau que nous avons entendu ensemble, cette chanson qui a été d'ailleurs collectée, je crois, par Sylvette aussi, hein, et puis par Christian aussi, les deux vous l'avez collectée. Elle a été assez connue et répandue en Ardèche, très belle chanson. Il y a un rythme que Vincent Dindy note, c'est-à-dire qu'en fait c'est un rythme presque proche du 5, hein, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. On a un rythme, hein, comme ça, où on va décaler. Et ça, Vincent Dindy le note tout de suite. Et c'est un des seuls folkloristes à le noter. Il dit en Ardèche, ce qui est très curieux, c'est que la bourrée, c'est pas toujours 3-3-3, c'est des fois 3-3-2 ou 3-2. Et donc là, vous voyez la qualité du musicien. Donc rythmiquement, et puis alors, je parle pas de l'originalité modale qu'il a su trouver tout de suite. D'ailleurs, il faut signaler aussi que certaines de ses œuvres peu connues, surtout les dernières, sont très novatrices. Hein. Je pense entre autres à l'arrangement qu'il a écrit sur une chanson ardéchoise qui s'appelle « La belle si tu me délaisses ». Il a écrit un arrangement pour six voix qui est très très beau. Il a aussi écrit un arrangement, un thème qui s'appelle « Ses guedilles », qui en fait ce sont des bourrées ardéchoises, qu'il a traité à la mode du flamenco. Et c'est assez étonnant, quoi. Voilà. Mais c'est malheureusement, on n'a que les partitions, parce que ça a été très peu joué, très peu enregistré. Je veux insister sur un point, c'est que dans les années 40, la situation de ces musiques en Ardèche, et paradoxalement, elle est bien meilleure qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous prenez les revues du Vivarais, vous prenez des années 30 aux années 40, vous vous rendez compte qu'il y a des veillées partout. Il y a des collectes, il y a des publications, il y a des reprises de répertoire lors des fêtes. Hein, par exemple, au village de Vallon, moi j'ai des programmations dans les années 35, il n'y a pas une fête où il n'y a pas une chorale qui chante une chanson en occitan du pays. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de fête locale sans chanson locale. Hein. Donc les répertoires traditionnels ont un vrai regain de popularité. Alors je ne sais pas, avant, donc je parle des années 30-40, hein, vous avez par exemple des soirées chansons d'Ardèche qui sont patronnées par Charles Foureau, hein, l'équipe du Pigeonnier. Vous avez des festivités, comme je vous dis, vous avez alors le groupe folklorique Empyrium de Romans, voilà, qui lui va faire un petit peu de revivalisme folklorique en Ardèche, il va collecter entre autres autour de la vire et autour du champ. Voilà. Donc ça, je passe rapidement sur les folkloristes, mais c'est une somme qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous permettre de comparer ce que nous, on va recueillir en enregistrement à partir des années 70. Hein. Donc ça va faire le pont. Ce sont en quelque sorte, nos maîtres, puisqu'on pourra comparer ce que l'on recueillit par exemple en 1880 et nous, ce que nous allons recueillir en 1970. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une des grandes données en Ardèche, c'est le travail saisonnier. Il faut comprendre que les Ardéchois étaient la caractéristique du territoire ardéchois, c'est la pauvreté. C'est le fait que nous n'avions pas grand-chose. Donc nous étions obligés souvent de nous expatrier. Nous étions des immigrés, en fait. Et nous allions, par exemple, ramasser les asperges vers Lunel, dans le sud. Nous allions ramasser les noix dans le Royan. Les faucheurs du plateau ardéchois étaient réputés. Ils faisaient des cols par village et ils descendaient, ils fauchaient, ils suivaient les saisons. Ils remontaient en fauchant jusque chez eux. Et donc tout ça, ça a fait, bien sûr, circuler les chansons, les musiques, les danses. Et c'est par exemple une des explications du rigodon. Et le rigodon, qui au départ a des formes provençales, il va se répandre par les travailleurs aussi bien ardéchois que dauphinois et il va remonter vers l'Ardèche, le Vivarais, il va remonter vers le Dauphiné. Et là, des formes populaires, au début du XIXe siècle, vont se mettre en place et vont déjà être, d'ailleurs, très, très répandues. Parce que, par exemple, en ce qui concerne le rigodon, vous avez beaucoup de remarques dans les archives qui sont liées au fait que la culture populaire au XIXe siècle est sujet à beaucoup de répressions policières. Parce que d'abord, il y a la reprise en main de la Restauration, et puis il y a un monsieur qui s'appelait Napoléon III, et tout le monde n'a pas vraiment apprécié en Ardèche sa prise de pouvoir, donc si vous connaissez un peu l'histoire. Donc il va surveiller la culture, les vogues. Par exemple, aux archives de l'Ardèche, vous avez un tableau, c'est le tableau des vogues de l'Ardèche, je crois que c'est vers 1860, et chaque village, qu'est-ce qui se chante ? C'est le préfet qui a fait ça. Qu'est-ce qui se chante, qu'est-ce qui se danse ? Bon, et oui, parce que les chansons patriotiques contre Napoléon, il y en avait un paquet, hein, les chansons politiques, d'accord ? Et donc, la culture, à ce moment-là, elle véhicule autre chose. Hein. Voilà, pour dire que nous avons des informations sur l'état de ces cultures traditionnelles. Et par exemple, on sait que le rigodon, vers 1830, il est très populaire en Ardèche, parce que le maire de la Voulte, il adresse une supplique au préfet de l'Ardèche en lui disant « il faut pas interdire... » les danses du peuple, hein. Il dit il faut laisser nos paysans danser la farandole et le rigodon puisque nos bourgeois dansent la valse et le quadrille. Donc il y a eu un côté folk en Ardèche, hein, c'est-à-dire le folk a côtoyé la tradition. J'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire que j'étais jeune musicien chanteur, et j'ai été à la recherche, bien sûr, de un petit peu de mes racines. Donc, j'ai pu jouer et chanter avec les derniers représentants de la tradition musicale en Ardèche. Ça, c'était extrêmement émouvant et très fort de partager ça dans les bals de la vogue, dans les veillées. Voilà, et dernièrement, même quand on a fait le DVD du plateau ardéchois, c'est vrai qu'il y a eu des moments incroyables. On a fait les rencontres d'Ardèche, un banquet avec les chases, et bon, il y a des moments très forts, on voit à quel point, voilà. Et nous avions continué cette aventure avec Aline et Dominique Laperche, et on a d'ailleurs fait un disque qui s'appelle « Chansons populaires du pays d'Ardèche », voilà. Tout ça, c'est une aventure musicale et humaine. Après, rapidement, vous savez qu'en Ardèche, le bal folk a connu un grand développement, surtout au niveau des années 70. Et c'était un bal très intéressant parce qu'il mélangeait les néo-ouvreaux, les autochtones, hein, les indigènes en quelque sorte. Et tout ça se passait très très bien. Et c'était un bal, je dirais, musetto traditionnel. On faisait du tango aussi, on faisait un peu de tout. Mais c'était vraiment fabuleux. Pour conclure, je dirais que nous avons la chance d'avoir un patrimoine musical original à valoriser. Grâce aux publications des folkloristes, des ethnologues, nous pouvons puiser dans un corpus impressionnant. Mélodies, chansons, contes, nos textes. Et bien des régions nous l'envient, en fait. L'Ardèche a un vrai patrimoine musical, mais il est aujourd'hui encore bien trop méconnu et il recèle des potentialités créatives, pédagogiques, humaines. Je n'ai pas parlé de tout ce qu'on peut faire dans une école de musique avec les musiques traditionnelles, mais c'est... voilà, vous n'avez pas besoin de chercher les rythmes asymétriques en Roumanie, ils sont là, tout proches, dans les publications, vous voyez. Voilà. À nous de les faire vivre, de les partager entre Ardéchoises et Ardéchois, mais aussi plus simplement avec tous ceux qui aiment les cultures populaires. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Voilà, merci.
Sujet consacré à un aspect de l'histoire des musiques et des danses traditionnelles en Ardèche, s'est conclu par une suite de vires du Coiron, qui figurait en 2006 sur l'album En suivant la Duraille du groupe Rural Café, qui est justement le groupe de Patrick Mazelier, le violoniste qui intervenait dans cette conférence. Bon, alors là, tout le monde forcément se demande qu'est-ce que la vire ? Eh ben, nous
sommes est-ce que c'est comme le rigodon ?
Voilà, c'est ça, les questions fondamentales. Et nous sommes en mesure de répondre à ces questions, étant donné que la réponse se trouve sur le livret du CD, où il est dit que la vire est une danse qui semble avoir été très populaire dans le massif du Coiron, qui est celui que l'on voit par la fenêtre pendant qu'on enregistre, et dans le Bas Vivarais. Sur la première partie de la danse, les couples avancent en cortège, côte à côte, sur le trajet de la ronde, en utilisant un pas sursauté. La deuxième partie consiste en un pas de valse rapide sur deux temps. À la fin de la danse, le garçon saisit sa cavalière par la taille et l'aide à sauter sur le glissando du violon. Ce qui nous fait une bonne transition avec la suite.
Voilà, et pour préciser, vous pouvez aussi retrouver des vidéos, voilà, si vous n'avez pas tout compris aux explications. le groupe Rural Café a enregistré une série de vidéos des danses, notamment la vire, mais aussi le rigodon. Vous pouvez retrouver ça sur Internet, on vous mettra le lien.
Sur le site du CMTRA.
Le pas de côté.
De côté.
Un pas de côté cette semaine avec Vincent Dindy, dont il a été question juste avant dans cette conférence de Patrick Mazelier que l'on vient d'écouter. Alors avant de donner son nom au lycée de Privas, ce Vincent Dindy était un compositeur de la fin du 19e siècle, début 20e, issu d'une lignée d'aristocrates du Vivarais. Un héritage familial qui explique certainement en partie son monarchisme conservateur et ses positions anti-dreyfusardes et antisémites. Bref, un homme peu fréquentable par bien des aspects. Comme on l'a compris juste avant, c'est un compositeur classique, certes, qui s'est donné pour mission de relever la musique d'église mal en point après la Révolution, mais plus étrange, il s'est aussi beaucoup intéressé aux musiques traditionnelles, notamment celles de son Vivarais d'origine, où il revenait d'ailleurs passer tous ses étés. Bien qu'aristocrate, il met de temps en temps ses souliers vernis dans la terre et fait un travail de collectage méticuleux, dont la trace aujourd'hui est assez précieuse pour retracer une histoire des musiques traditionnelles de la région. Mais s'il investit la musique traditionnelle, c'est aussi en tant que compositeur, comme l'ont pu faire des Bach ou des Beethoven en s'en inspirant, ou des Bartok, en s'en inspirant, en reproduisant tel quel des morceaux traditionnels, arrangés de manière plus ou moins heureuse, et qui, à notre avis, qui n'est que notre avis, ont, pour beaucoup, moins bien vieilli que les versions du cru. Son travail de collectage, qu'il a mené et compilé dans un ouvrage d'une cinquantaine de pages publié en 1892, on voudrait vous en servir les meilleures feuilles. On trouve dans « Chansons populaires recueillies dans le Vivarais et le Vercors », « Paroles et partitions », c'est un peu en fait le tradmag de l'époque.
Regretterai tradmag.
Avec des commentaires sur les paroles, les variantes, c'est en fait assez érudit. Dindy a beaucoup lu sur ce qui se faisait dans d'autres régions, qui lui permet de faire des rapprochements avec des versions auvergnates ou, plus surprenant, des versions bretonnes des mêmes morceaux. Cela a parfois des airs de traités de théorie musicale des airs populaires, jugez plutôt avec ce commentaire au morceau « Le rendez-vous d'un soir d'hiver ».
La mélodie du Vercors présente sur l'avant-dernier vers une variante insignifiante et trop peu caractéristique pour mériter d'être notée. Il est superflu, sans doute, d'attirer l'attention sur le caractère tonal de cette mélodie et particulièrement sur sa cadence finale, qui s'arrête sur la dominante après un développement mélodique en mineur sans notes sensibles et avec le sixième degré tour à tour majeur et mineur, ce qui donne d'abord l'impression d'un mélange d'hypodorien et de premier ton. Mais en réalité, la mélodie ne peut rentrer complètement dans aucun mode antique ou du Moyen-Âge, par suite de la présence du fa dièse, qui ôte aux dernières mesures le caractère dorien qu'elles auraient sans cela et fait purement et simplement de la cadence finale une modulation de la dominante. Bon alors, un peu plus compréhensible pour le premier venu, voici l'introduction de l'éditeur.
Les vastes régions montagneuses entre lesquelles se creuse l'étroite et longue vallée du Rhône ont été jusqu'à ce jour fort peu visitées par les folkloristes, surtout par ceux qui intéressent plus spécialement la chanson populaire. Cette négligence s'est étendue, en réalité, à tout l'ensemble des deux chaînes, dont le Vivarais et le Vercors ne sont que des portions relativement restreintes, les Cévennes et les Alpes. Alors que pour toutes les provinces de l'ouest de la France, depuis la Normandie jusqu'aux Pyrénées, les recueils de chansons populaires abondent, que celles du centre et de l'est, Île-de-France, Bourgogne, Champagne, Lorraine, Bourbonnais, Berry, Auvergne, etc., si chacune n'a pas encore fourni son romancero complet et définitif, ont du moins donné lieu à des recherches et à des études très suffisantes pour nous donner une idée de leur richesse traditionnelle. Nous n'avons encore, sur les Alpes comme sur les Cévennes, que de très rares fragments épars. Sans doute cette ignorance a pour cause le caractère plus primitif encore et moins civilisé de ces pays, peu riches en villes pouvant former des centres d'études et peu explorés par les habitants du dehors. Cela n'en rend que plus précieux et plus intéressant le premier travail qui soit publié sur le sujet.
Les anciens instruments populaires ont disparu depuis longtemps des montagnes de l'Ardèche, si tant est qu'ils aient jamais été très répandus. On rencontre encore par endroits très rarement des joueurs de violon. Mais aujourd'hui, la clarinette qui a remplacé la musette dans la plus grande partie des régions de l'Est, et surtout le moderne cornet à piston et le baryton en si bémol, sont les seuls instruments sur lesquels les ménétriers exécutent les danses populaires. Souvent, enfin, des mélodies de danse de caractère instrumental et n'ayant pas de paroles sont, à défaut et d'instruments, purement et simplement chantées.
C'est dans les campagnes de nos vieilles danses françaises qu'on retrouvait leur dernier refuge. La bourrée se dansait à la cour de France, au XVIe siècle. On nous dit que Marguerite de Valois, ayant les jambes fort belles, la substitua aux basses danses, où l'on marchait au lieu de sauter. Le rigaudon, pour être venu plus tard, n'en jouit pas moins d'une vogue universelle à la cour et à la ville pendant le XVIIIe siècle. L'air de rigaudon ci-dessus, d'allure bien française, est intéressant par sa coupe mélodique formée exclusivement de membres de trois mesures. « Et enfin, à propos de la pernette, dont de nombreuses variantes sont recensées.
Voilà bien certainement la plus belle, en même temps que la plus ancienne, de toutes les chansons de ce recueil. Telle est la force de la tradition qu'elle s'impose si impérieusement à l'esprit populaire que, malgré le dédain qu'en éprouvent les habitants de cette région pour cette vieillerie, ainsi qu'ils la qualifient, ils n'ont pu encore complètement l'oublier. Elle-même, vieille chanson, elle se désagrège et ne tarderait pas à périr complètement si le chant ne la gravait pas dans la mémoire des gens, comme malgré eux. Dans les pays où l'on a recueilli tous les éléments de cette collection, la poésie est en effet tombée dans un oubli qui paraît être sans rémission. Et cependant, le premier couplet est dans la bouche de tous grâce à la mélodie que tout le monde répète encore.
Nous n'avons pour l'instant aucune conclusion particulière à tirer de ces observations, si ce n'est que l'esprit populaire est, lui aussi, capricieux et changeant, qu'il a ses modes, comme l'esprit mondain. Car pourquoi eût-il substitué ces mélodies peu remarquables à l'expressif et si caractéristique chant traditionnel, si ce n'est qu'il jugeait celui-ci démodé? Mais le vrai chant n'a pas disparu pour cela, et ne saurait disparaître, il est dans le sang de la race. Si chargé d'en qu'il soit, de nombreuses générations le répéteront encore.
Moi, je suis un folk, tire à la rondelle et rabat ta queue. Moi, je suis un folk, je ne suis pas breton et le regrette un peu.
L'écho du parquet.
L'émission qui met le feu au plancher.
Alors comme à notre habitude, on vous parle aussi de ce qui se passe sur une radio amie, Radio BLV, et l'émission Musique de sac et de corde qui est consacrée aux musiques traditionnelles, une émission de Gilles Moncoudiol qui est consacrée ce mois-ci à un ami à lui accordéoniste qui vit en Suède.
Cet été, un périple en Scandinavie m'a donné l'occasion de rendre visite en Suède à un vieux copain musicien, Jean-Pierre Hiver, dont on entend d'ailleurs en fond sonore le jeu d'accordéon. Jean-Pierre, donc, un copain accordéoniste de ces années 70, où, porté par la vague du mouvement folk, nous découvrions et expérimentions à la fois de nouvelles perspectives musicales, de nouveaux répertoires, de nouveaux instruments ou de nouvelles manières de les faire sonner. Jean-Pierre a ensuite fait le choix de se professionnaliser et, parallèlement à d'autres aventures musicales, de se consacrer aux musiques scandinaves, avec le souci particulier de reproduire sur ses accordéons diatoniques le phrasé propre aux jeux de violon traditionnels norvégiens et suédois. Jean-Pierre Hiver vit aujourd'hui en Suède, dans cette région de Dalarna, particulièrement riche en traditions musicales, où il s'est installé il y a une vingtaine d'années. C'est donc tout ce parcours qu'il nous raconte dans cette nouvelle émission avec, en illustration sonore, une sélection d'enregistrements de ses diverses aventures musicales. Un témoignage et des extraits musicaux à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site de radiobLV.com, sur la page de l'émission Musique de sac et de corde. A bientôt, j'espère, sur Musique de sac et de corde, et d'ici là, bonne musique!
Thank you. de la tour vient se promener au bord de la rivière pour voir passer la jolie batelière.
Par ici, le par ici, par ici.
Mon beau monsieur.
C'est l'heure maintenant dans l'écho du parquet de l'agenda, le moment où on vous parle de ce qui se passe dans le coin, plus ou moins près, pendant les moments à venir.
Voilà. Et ce qui va nous accompagner musicalement pendant cet agenda, c'est un choix délibéré d'un groupe qui s'appelle l'Ensemble Habibti. C'est un groupe de musique d'Israël, mais qui joue de la musique arabe. Et donc on a en quelque sorte un groupe qui chante en hébreu sur de la musique très typique du monde arabe, avec des influences aussi un petit peu modernes et occidentales.
Vendredi 27 octobre à la salle polyvalente de Chalencon près de Vernoux, un bal organisé par Fol Bémol avec deux groupes de la région, Noémie et Oswega Trio.
On reste dans des ambiances musique du monde pour la journée du samedi 28 octobre, où vous pourrez apprendre des danses d'ailleurs dans la Drôme. D'ailleurs, pour nous, les Ardéchois, la Drôme, c'est déjà ailleurs. Vous avez le choix.
Vous pourrez apprendre des danses de la Drôme.
Voilà, c'est ça, les danses exotiques. Vous aurez le choix entre deux endroits pour ces danses d'ailleurs, le 28 octobre. D'abord, un stage de danse des Balkans l'après-midi avec Martine Dunan à la salle Roche-Grivel de Cré pour apprendre des danses de Roumanie, Bulgarie, Grèce et Macédoine. Ou alors des stages de danse du monde à l'espace culturel d'Annénon près de Haute-Rive toute la journée pour des danses britanniques et des Balkans.
Vous l'attendiez depuis un an, le dimanche 29 octobre, c'est la 20e fête de la châtaigne.
Oh !
À Darbres. Bon, il y en aura toute la saison, hein, des fêtes de la châtaigne, où que vous soyez. Mais à Darbres, ce sera l'occasion d'un bal avec la chouette velue dans l'après-midi.
Et enfin, le vendredi 3 novembre, au gymnase Soubéran de Cré, et oui, encore à Cré, il s'y passe des choses, bal folk avec Cirté Soulier à partir de 20h.
On va se quitter en musique, on se retrouve là dans deux semaines.
On se retrouve dans deux semaines pour une spéciale cornemuse, ça va être immanquable.
Voilà, et en attendant, on vous laisse sur ce groupe de Amon Martin Quintet et en collaboration avec Basel Zayed, donc, qui sont deux musiciens palestiniens et qui ont signé un album qui s'appelle Karoub. On vous laisse avec le morceau à la Dalouna, qui signifie songe.
Couple de nos mères, des couples bonne.